Nous louons Dieu avec le psaume 138, quelques extraits. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Et nous chantons le psaume 25, les strophes 1, 3 et 4 du psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Page 52. Prenez place. Alors, comme vous avez pu l'entendre, nous avons récupéré l'usage de notre orgue. Et certains, peut-être, qui ont l'oreille la meilleure, ont pu remarquer une différence de qualité. Alors, en tout cas, les organismes ont dit que ça changeait tout. Il faudrait avoir des enregistrements d'avant et d'après, mais je sais pas. Bienvenue à ce culte. Je vous invite maintenant à nous placer sous le regard de Dieu avec nos ombres et nos lumières. Seigneur Dieu, notre Père, tu as semé en nous le grain de ta parole et pourtant notre cœur ne s'est pas transformé. Tu as semé en nous le grain de la vraie vie et cependant nos fruits ne sont pas vraiment bons. Sans cesse en nous, ton amour est renversé, nous n'arrivons pas à convertir nos existences pour qu'elles suivent fidèlement tes voies. Nous finissons toujours par résister à ton esprit, bien loin de préparer les chemins de ton royaume. Toujours nous revenons à nos sentiments obscurs. Au nom du seul Jésus, ton Christ, nous t'en prions. Prends pitié de nous, Seigneur. Vois notre honte, pardonne-nous. C'est ton pardon qui nous fait vivre. Et nous chantons en restant assis, Jésus le Christ, lumière intérieure, donc dans le petit livret qui est au début de vos cantiques. Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude. Je parlerai à ton cœur. Je ferai de toi la porte d'espérance. En ce jour-là, dit le Seigneur, mon nom sera amour, et je n'en aurai plus, et je ne saurai plus m'en donner d'autre. Je m'attacherai à toi pour toujours par la justice et le droit, par la tendresse et l'amour. Je t'attacherai à moi pour toujours, et tu connaîtras mon nom. Avec ces paroles du prophète Osée, nous souvenons que Dieu nous pardonne, qu'il nous accueille en Jésus-Christ. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Tu consoles, tu pardonnes ». Libérés et pardonnés, écoutons ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Nous chantons « Transmet la nouvelle ». Prenez place. deux lectures pour aujourd'hui. La première dans le livre du prophète Ésaïe, c'est celle qui est proposée pour ce jour, et une autre que j'ai choisie pour accompagner, qui va être le texte principal, qui se trouve dans l'évangile de Luc. Mais avant d'écouter ces lectures, nous prions. Écouter, c'est être à l'affût du cri du cœur et de celui de l'âme, là où Dieu nous parle. Écouter, c'est entendre en laissant résonner en nous ce qui jamais ne peut être saisi, ce qui toujours s'échappe, la parole de Dieu. Cette parole que nous allons maintenant découvrir en ouvrant la Bible. Amen.
Donc la première lecture, c'est Ésaïe 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les jambes, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Quel malheur pour moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Je répondis « Je suis là, envoie-moi. » Deuxième lecture, c'est Luc 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, il entra à Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. » Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. » Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé.
Nous chantons « Écoute, entends la voix de Dieu ». place. Il y a 10 jours, réunis en pastoral, mes collègues et moi, parlions de choses diverses et tout à coup, nous avons évoqué l'attitude que nous aurions, ou disons que nous pensions que nous aurions, le jour où nous nous présenterons devant notre Seigneur. Et d'aucun d'évoquer ce sentiment qui traverse et Ésaïe et le centenier, ou centurion, ou capitaine. C'est une question de traduction, c'est la même chose. C'est d'ailleurs le sentiment d'indignité. Ils l'éprouvent l'un et l'autre, mais en ordre inverse. Ésaïe se sent d'abord condamné, puis se sent digne, puisqu'il se porte volontaire, après avoir été purifié, tandis que le centurion est d'abord audacieux, puis humble. Y a-t-il un bon ordre des choses ? Ces deux attitudes sont totalement logiques dans leurs circonstances. Alors, quel sentiment avoir lorsque nous nous adressons à Dieu ? Pas seulement le jour du jugement, mais aujourd'hui, dans notre vie. La Bible nous propose ici un récit de guérison. On a souvent l'impression, au premier abord, que toutes ces histoires de guérison se ressemblent. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Dans ce récit, il y a une chose surprenante. On n'y rencontre jamais les principaux concernés. Le serviteur malade et le centurion. En effet, Jésus ne rencontre aucun de ces deux hommes. Tout se passe par des intermédiaires. D'abord les anciens des Juifs, puis des amis. Alors peut-être qu'après tout, finalement, le centurion et le serviteur ne sont pas les principaux concernés par cette histoire. Nous y reviendrons. On peut aussi s'étonner de ce que des anciens aient porté témoignage pour un occupant romain. Cet homme devait être ce qu'on appelle un craignant Dieu, un prosélyte. Tout comme son confrère Corneille du livre des Actes, il avait sans doute fait des offrandes importantes. Il avait même, témoignent les anciens, fait construire la synagogue. Il est clair qu'il jouissait d'un prestige considérable pour que des notables juifs consentent à aller démarcher Jésus en son nom. Qu'ils acceptent de se poser en témoin de moralité, pour ainsi dire, ils parlent à Jésus de son comportement et posent un jugement. Il est digne que tu lui accordes cela. Bien que non juif, il a coché toutes les cases de la morale religieuse. Mais il est tout aussi étonnant qu'après avoir envoyé les anciens pour faire venir Jésus, il demande à des amis d'affirmer le message contraire. « Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, que tu honores mon toit de ta présence. Cependant, malgré son indignité, il demande la guérison de son serviteur. » Alors, ça me rappelle une très vieille blague qui raconte qu'un fils, du temps où le courrier était la seule méthode de communication à distance, et qui a donc un jeune homme écrit à son père qu'il a besoin d'argent et termine par cette lettre par un post-scriptum. Après avoir envoyé cette lettre, j'ai eu honte de ma demande, mais j'ai couru après le facteur et je ne l'ai pas rattrapé. Elle reçoit quelque temps après la réponse paternelle : ne t'inquiète pas, le facteur a perdu ta lettre. Il a peut-être, sans doute même, une forme de rhétorique derrière la double demande, la double démarche. Faire connaître un besoin, puis affirmer à celui à qui on l'a demandé qu'on ne lui demande pas, qu'on ne veut pas le forcer. L'emploi d'une méthode éprouvée et un peu de manipulation n'empêche pas toujours une sincérité. On peut parfaitement penser que l'officier, pendant son attente angoissée, a réfléchi sur lui-même et sur sa situation. Il s'est peut-être rendu compte que Dieu ne lui accorderait rien, grâce à ses vertus, mais que sa seule chance soit la pure compassion de Jésus et le simple amour de Dieu. Peut-être aussi a-t-il voulu clarifier sa demande de peur qu'elle soit mal interprétée par Jésus. En effet, l'invitation de Jésus chez lui aurait pu passer comme une volonté de franchir une étape de plus dans le processus d'intégration religieuse. Le discours du centurion à travers ses amis est de dire « Je ne recherche pas l'honneur pour moi. La maladie de mon esclave n'est pas un prétexte pour moi, mais la véritable raison de ma démarche. » Et si on s'étonne de l'implication des anciens dans ce récit, on est touché par la préoccupation de cet homme pour son serviteur, son esclave. Ayant compris l'ambiguïté de sa demande et la vanité de se faire vanter ses mérites, il recentre sa demande non sur lui-même, ni sur le serviteur, mais sur Jésus. Loin d'être un théologien de formation, il emploie des concepts et le vocabulaire de sa profession pour évoquer ce qu'il a compris. Il compare sa situation d'officier à celle de Jésus. Il est soumis à la volonté de son général, mais a autorité sur ses hommes. De même, Jésus est soumis à la volonté de son Père, mais a autorité sur les gens et les choses de cette terre. Si Jésus a été envoyé par Dieu pour guérir, non seulement il peut le faire, mais il doit le faire. Sans doute, le fait que le Romain ne demande rien pour lui-même et qu'il soit prêt à s'humilier devant un homme d'un peuple vaincu pour sauver un de ses esclaves a dû toucher Jésus. Mais ce n'est pas cet aspect des choses qu'il relève. Ce que Jésus fait remarquer, c'est la foi du centurion. La foi immense de ce Romain qui a tout compris alors qu'il est étranger à ce peuple. Ce peuple élu qui connaît Dieu depuis la nuit des temps. Il a su reconnaître en Jésus l'envoyé de Dieu. Je vous disais au début que les personnages principaux de cette histoire n'étaient sans doute pas l'officier ou son serviteur. Les personnages principaux du récit, outre Jésus bien sûr, ce sont les lecteurs, c'est-à-dire nous. Comme les anciens, nous pouvons intercéder en disant « il est digne » ou comme les amis en confessant « il n'est pas digne ». Ces deux groupes ont dit néanmoins à Jésus la même chose « guéris le serviteur ». Certes, il ne nous appartient pas de dire un tel est digne ou un tel n'est pas digne. Mais comme les anciens et les amis, nous pouvons présenter à Dieu la requête des autres qui ne se sentent peut-être pas dignes de se présenter eux-mêmes et qui pensent peut-être que notre prière à nous qui fréquentons régulièrement les églises est plus écoutée de Dieu. Une telle idée peut nous faire sourire ou nous agacer, car nous savons que Dieu écoute chacun, chacune, mais certains croient nécessaires les recommandations. Il n'est pas nécessaire de vanter les mérites des bénéficiaires de nos prières. Alors pourquoi ne pas leur faire des recommandations, même si nous ne sommes pas toujours persuadés d'être une bonne garantie? La prière des amis est aussi valable que celle des anciens. Elles sont toutes les deux sincères. Nous pouvons dans nos prières demander au Seigneur l'exaucement des demandes de nos proches, même si nous savons ou pensons qu'ils n'en sont pas dignes. Chrétiens, nous savons que personne n'est digne de recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas le mérite qui est la source de la bénédiction, mais l'amour gratuit de Dieu. Lorsque nous prions pour quelqu'un qui souffre, il n'est pas nécessaire de savoir de quelle maladie il souffre, ni même comment il a attrapé son mal. Non, il nous suffit de savoir qu'il souffre. Le centurion romain est riche. Riche d'argent, il peut faire de grandes donations, il a des esclaves. Riche d'influence sur les notables qu'il envoie en ambassade. Riche d'amis qui viennent en délégation supplier Jésus. Riche en savoir, il connaît la loi et sait qu'un juif ne peut pas fréquenter un incirconcis. Riche en humilité, il se sait indigne de recevoir chez lui l'envoyé de Dieu. Riche en fin de foi. Il sait que Jésus peut l'exaucer, même à distance. De toutes ces richesses, Jésus ne semble n'en retenir qu'une, la dernière. Sans doute les a-t-il toutes remarquées, mais il ne relève que celle qui lui semble la plus pertinente, la foi, la confiance en Dieu. Mais sa remarque est à double sens. Il déplore aussi de ne pas trouver une foi aussi grande dans son peuple, chez ceux qui le suivent, parmi ses propres disciples. Sommes-nous aussi sûrs que le centurion, ce qui concerne l'action de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas aussi à nous que s'adresse ce reproche de Jésus? Cet officier anonyme ne pourrait-il pas figurer tous les anonymes que nous côtoyons chaque jour et qui ont leurs propres souffrances? Même si Luc ne nous livre pas le nom de cet homme, Jésus le connaît. Il n'y a pas pour Dieu d'anonyme dans la foule. Si personne n'est digne, l'amour de Dieu est offert à chacun, à chacune. Il n'y a pour Dieu aucune discrimination d'appartenance. Il n'y a pas de critères pour vivre sa relation à Dieu. Nous sommes tous et toutes des créatures de Dieu. Mais nous répondons ou non à son appel. Nous lui faisons ou non confiance. Les critères sociaux ne sont d'aucun apport. Ésaïe était impur et le centurion était un incirconcis. Ils furent tous deux choisis par Dieu, l'un pour devenir un prophète, l'autre pour être un exemple de foi. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous des gens dignes, et non notre dignité qui nous rend capables de recevoir l'amour divin. Des paroles légèrement modifiées du centurion, nous avons fait un texte liturgique que nous employons lors de la Sainte Cène, de la scène. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce n'est pas un énième rappel de notre médiocrité. C'est l'affirmation audacieuse de notre foi, de notre confiance d'être accueillis. Nous avons appris du centurion romain que ce ne sont pas nos mérites, aussi grands qu'ils puissent être, que nous devons la présence du Christ parmi nous. Seulement à l'amour de Dieu pour ses créatures. Notre foi est que la bonté de Dieu surpassera toujours notre indignité à le recevoir. De ce récit de guérison, nous pouvons apprendre au moins deux choses. La première, c'est que Dieu intervient dans nos vies sans considération de nos mérites ou de nos appartenances. Et la seconde, et qu'il est nécessaire d'intercéder pour les uns pour les autres, et le cas échéant de demander aux autres d'intercéder pour nous. Ce que je n'ose pas demander pour moi, d'autres peuvent le demander à ma place, par amitié ou par reconnaissance. Le chemin de la rencontre avec le Christ passe presque toujours par les autres. Nous pouvons faire de cette phrase une devise, une conviction forte. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Thank you. Tu me veux à ton service, cantique 4407, page 662. 662. Nous restons debout pour dire ensemble la confession de foi numéro 7, donc qui se trouve dans le petit le papier qui est à la fin du cantique et qui commence par « Je crois en Dieu le Père ». Bon, ça c'est sûr, pas très discriminant. Numéro 7. Je crois en Dieu le Père, je crois qu'il a créé le monde pour l'homme, pour je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit et la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église, signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'être humain est déjà renouvelé. Mais je sais que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi j'attends un monde nouveau. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Et nous chantons chaque jour de ma vie. Prenez place. Préserve-nous, Seigneur, d'accomplir notre offrande du bout des doigts et, par conséquent, du bout du cœur. Préserve-nous, Seigneur, de garder jalousement notre superflu. Accorde-nous la grâce de mettre tout notre cœur dans le moindre de nos gestes solidaires. C'est maintenant le temps de l'offrande, le moment du don. Seigneur, nous invoquons ton esprit sur notre offrande de ce matin. C'est par lui seul qu'elle portera du fruit. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles, quelques annonces. Frédéric.
Bonjour à tous, je vais commencer par des merci. Merci d'abord Vincent pour avoir conduit notre culte ce dimanche. Merci à Mathieu. Je ne sais pas si vous avez noté le changement, mais notre orgue a repris de la voix.
Merci donc, à Fred pour l'accueil. Donc.
Oui aussi, il le mérite. Non. On va commencer donc pour l'actualité de la semaine, donc mardi. À 7h pour les matinaux, il y a la prière. À 19h15, pour ceux qui ont de la voix, il y a la chorale. Mercredi, 18h, ça sera le temps de prière. Jeudi, le conseil se réunit. Ensuite, je ne sais pas si vous avez reçu une newsletter, je pense que oui, pour la plupart, qui parle d'un joli voyage. Donc, et Richard nous font la joie de vouloir organiser ça. Merci à eux. Dimanche prochain, nous avons le culte famille qui sera aussi le culte du souvenir. Autre chose, cette semaine, vous avez dû recevoir aussi une news qui parle en fait d'une soirée qui va se passer à la maison du diocèse, donc lundi. Donc c'est l'église, l'heure des femmes. Donc, ça sera animé par Valérie Duval-Poujol et Sylvaine Landrivon. Ensuite, pour terminer, il y a l'appel de la CAT, donc pour la Guinée. Donc, c'est pour soutenir les familles d'Oumar Sylla et de Mamadou Biloba dans leur quête de vérité et de justice. Donc, n'hésitez pas d'aller au présentoir et puis prendre les cartes pour participer à cette manifestation. Merci à vous.
Deux mots sur le culte du souvenir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, on est en début d'année encore. On peut encore dire qu'on est en début d'année. Et un certain nombre d'actes ont été posés l'année dernière. Eh bien, C'est bien, en commençant quelque chose, de se souvenir de ce qui était avant. Alors, ce n'est pas un culte pour les morts, hein, on est bien d'accord. Simplement, tous ceux qui ont eu un deuil, qui ont été accompagnés par l'Église, on va dire deuil, confirmation, baptême, présentation, il n'y en a pas eu, mariage, ont été invités pour dire, ben voilà, on a vécu une année, on se souvient. On se souvient de ce qu'on a vécu pour partir plus fort l'année qui commence. Voilà, c'est ça. Alors, bien sûr, ça ne sont nommés que ceux qui ont fait quelque chose ici, mais chacun de nous peut avoir des deuils ailleurs, peut avoir des mariages ailleurs, et ils sont évidemment bienvenus aussi. Il y aura un temps si quelqu'un veut ajouter un nom possible. Voilà. Je vous invite à vous unir dans cette prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es fidèle et qui nous a appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie. Pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui partout dans le monde invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, pour tous ceux qui sont seuls. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants. Et par-dessus tout, Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Ainsi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi, mon frère, ma sœur, sais-tu que tu es l'ami de Dieu? Il te précède et t'accompagne. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est espérance. Dans tes joies, il est sourire, et dans ton attente, il est désir. Dans ta peine, il sèche tes larmes, dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est chemin, dans tes nuits, il est le matin. Je vous invite à vous lever. Le pardon, la paix et l'amour vous sont donnés en abondance. Allez dans la joie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dimanche à tous.